Laurent Géronimi, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de la gestion taux chez Swiss Life Banque Privée. On va parler avec vous de ces marchés hein, après la décision de la Fed. Alors, de marquer une pause, mais on sait qu'elle a un plan de hausse de taux qui est maintenant engagé. Comment vous analysez-vous un petit peu ce qui se passe sur ces marchés aux États-Unis et en Europe?
Alors, on l'a pu voir en 2016, on a eu de la déflation monétaire juste après le résultat du Brexit. On avait un quart des obligations du monde qui avait des rendements négatifs pour les emprunts d'État, l'autre quart qui était proche de zéro. Donc on était à un moment donné dans un contexte extrêmement pessimiste. Et puis tout d'un coup, il y a eu l'effet Trump avec ce qu'on peut appeler la Trumpflation. Trump a gagné l'élection présidentielle américaine et il y a eu un pragmatisme des marchés financiers. Et puis on voit là, il est en train de mettre en place, via des décrets ou des ordonnances, si on utilise le terme français, il dit voilà, je mets en place ce que j'avais dit. Il y a eu une reflation politique. Et finalement, le thème de 2017, c'est la politique, puisque on va avoir l'article 50 qui va être déclenché par les Anglais à la fin mars, donc la sortie de l'Union européenne, les élections présidentielles en France, et je ne vous cache pas qu'actuellement, il se passe pas mal de choses à cause du Penelope Gate. Et puis, évidemment, la mise en œuvre effective, cette fois-ci, du programme de Donald Trump.
Donc on va dire les investisseurs, clairement, ils ont leur calendrier, leur agenda politique, et puis les conséquences quand on voit des décisions qui peuvent être prises, effectivement, et qui peuvent avoir un impact sur l'économie, comme quand on ferme les frontières, par exemple, tout simplement.
Ah oui, il y a eu la fermeture des frontières, il y a eu des tweets juste avant, donc il y a eu un effet communication. Faut dire que Donald Trump est un homme de communication déjà au premier plan. Il bénéficie aussi d'une conjoncture économique aux États-Unis qui est robuste, même si on a eu un chiffre du quatrième trimestre du PIB qui n'était pas si bon que ça. La conjoncture est très bonne aux États-Unis et les mesures fiscales qu'il va prendre vont allonger le cycle économique. Je vais en citer une. Il va baisser de 20% l'impôt sur les sociétés qui va passer de 35% à 15%. Donc un effet favorable sur les profits des entreprises. La prolongation du CITE à un moment donné où il y avait une hausse des salaires qui est en train de se prononcer aux États-Unis, une baisse de la productivité. C'est bon signe. C'est bon signe parce que ça va permettre aux entreprises de continuer les embauches et de continuer les investissements. Et c'est bon également pour le reste du monde. Quand on observe globalement, au niveau mondial et statistique, on s'aperçoit qu'on a une augmentation des prix à la production. Zone euro, UK, Chine et donc États-Unis. C'est un signe déjà d'inflation avancée de 9 mois. Donc, dans 9 mois, on devrait avoir une hausse de l'inflation sous-jacente plus prononcée encore que ce qu'on a actuellement. Et c'est une hausse des bénéfices par action à venir, même en zone euro. Donc, je ne vous dis pas en zone euro, si on a tout d'un coup une chute de l'incertitude politique, si ça va bien pour l'élection présidentielle française dans un premier temps, puis ensuite bien pour les législatives en Allemagne, il faut absolument jouer les actions européennes, qui sont fortement décotées par rapport aux USA.
Donc, il y a effectivement cet écart aujourd'hui. On peut lire aussi dans les déclarations de Donald Trump que le dollar est trop fort, et ça, on sait bien ce que ça veut dire derrière ce genre de mots. Alors, certains disent qu'il y a une guerre des devises qui a lieu ou qui va avoir lieu. Quand on dit que le dollar est trop fort, on sait ce que ça peut amener.
Alors, effectivement, alors, le dollar est trop fort. De toute manière, le dollar, il ne faut pas qu'il soit trop fort pour deux raisons. D'une part, pour les États-Unis, parce qu'effectivement, c'est un impact négatif sur la croissance américaine, et ensuite sur les émergents, en particulier la Chine, puisque la plupart des émergents sont endettés en dollars. Aujourd'hui, leur croissance se stabilise. Si effectivement, il y a un coût de leur charge d'intérêt, il y aura un problème au moment où la croissance est en train de repartir tranquillement. Il est évident que la politique de Trump va plutôt favoriser la hausse du dollar. C'est ça que c'est un petit peu effarant, ce genre de communication. Pourquoi? Parce qu'il devrait faciliter par les mesures fiscales, par le déploiement effectivement de travaux dans les infrastructures, dans la construction, une économie qui va favoriser la hausse des taux d'intérêt via la hausse de l'inflation. La Fed devra donc réagir. Ça va favoriser le dollar. Alors nous ne croyons pas aux trois hausses de taux de la Fed, nous croyons seulement à deux hausses de taux d'intérêt.
Donc peut-être un scénario plus modéré de hausse de taux.
De toute manière, notre scénario, il est très simple, c'est que au maximum, le taux 10 ans américain sera à 2,70, 2,75 à la fin de l'année 2017. 3%, ça serait révélateur d'un risque de tension très important. Peut-être un krach obligataire aux États-Unis parce qu'il y aurait tout d'un coup, si la Fed ne fait rien, et là effectivement il y aura au moins trois hausses des taux, l'idée de dire la Fed laisse courir l'inflation. Le deuxième point, si effectivement on arrive à 3%, les Chinois ne pourraient plus tenir, dévaluerait le yuan, donc on aurait un phénomène déflationniste.
Pour l'investisseur, c'est peut-être pas facile parce que vous aviez parlé de ces échéances politiques difficiles. On connaît maintenant les sondages aux États-Unis, on a vu ce qui s'est passé. Donc les paris d'investisseurs, même sur l'après d'ailleurs, où il y avait des paris de baisse qui ne se sont pas avérés, c'est très compliqué de jouer sur le politique, sur de l'économie, sur de la macroéconomie, sur des entreprises. On peut. Là, il y a un aléa supplémentaire.
C'est un drôle d'aléa, d'autant plus que les banques centrales sont arrivées à la fin de leur munition, Donc la Fed a repris une hausse des taux. Alors, elle n'est pas suffisamment progressive, il n'y a pas de rythme, mais elle a repris une hausse des taux. Là, la Banque Centrale Européenne va s'engager dans ce qu'on appelle le tapering, donc une sortie progressive de son programme d'achat d'actifs. La seule issue, c'est le politique. Donc mécaniquement, qu'on le veuille ou non, tous les investisseurs sont aujourd'hui braqués sur les sondages politiques et les conséquences de l'arrivée de tel ou tel candidat au pouvoir.
Est-ce qu'il y a une inquiétude à avoir quand on regarde par exemple en Europe, on voit les États périphériques, on voit des hausses de taux qu'on puisse se produire. Bon, l'Italie, elle est passée ric-rac, en tout cas on voit que les banques ont fait des augmentations de capital, mais la situation n'est pas très favorable, ces écarts de taux.
Ce sont des écarts qui sont importants. Ça correspond à l'incertitude politique de la zone euro. Il y a la première étape, c'est comment vont s'engager les négociations de l'article 50, donc entre les Anglais et l'Union européenne. Ça joue un rôle. La deuxième étape, effectivement, c'est qui sera le futur président ou présidente de la République française. À partir de là, on aura déjà un petit peu plus clair. Puis enfin, donc, élections législatives en Allemagne. Mais on a un souci politique, on a un souci bancaire, mais le souci bancaire, il est effectivement en zone euro, pour les banques italiennes en particulier, mais on peut aussi citer la Deutsche Bank qui vient de sortir une deuxième perte annuelle, mais aussi aux États-Unis et également en Chine. Le vrai souci, vous savez, c'est leur bilan. Pour reparler de la Deutsche Bank, elle a, en termes d'engagement hors bilan, 13 fois le montant du PIB allemand. Donc je ne parle pas de la finance de l'ombre des banques chinoises.
Ouais. Voilà. Là, c'est directement à côté de chez nous. Le mot de la fin pour terminer sur l'allocation d'actifs pour vous, pour l'investisseur.
Alors nous favorisons les portages à travers des subordonnées financières ou des subordonnées corporate, ce qu'on appelle les hybrides corporate, premier point. Nous favorisons les taux variables. On joue effectivement une remontée progressive des taux d'intérêt. Et sur le marché action, nous favorisons la zone euro. Et parmi les secteurs, nous favorisons les secteurs cycliques, avec l'allongement du cycle aux États-Unis et la bonne tenue de la croissance en zone euro, et donc le monde bancaire par la pontification de la courbe.
Merci Laurent Géronimi d'avoir fait le point avec nous.